Tristan peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Richard Dahan. Alors, Richard Dahan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur. Vous avez fait des camps de jeunes, notamment avec l'Afrique. Vous avez eu beaucoup de liens avec l'Afrique. Vous en avez toujours. Vous allez nous en parler. Et puis, vous avez été évidemment pasteur de paroisse. Enfin, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais enfin, vous l'avez été. Et vous avez beaucoup travaillé dans les prisons. Vous êtes marié avec une fille de missionnaire. Votre beau-père a été missionnaire pendant 40 ans. Et vous-même, vous êtes né au Maroc. D'où ma première question. Est-ce que le Maroc a une importance pour vous au niveau de la foi? Est-ce que le fait d'être né au Maroc avec dans un environnement protestant, je suppose, avec l'islam tout autour, les minarets, les chants, etc. Est-ce que ça a joué pour vous?
Oui, alors c'est une grande importance. Je suis né au Maroc, à Casablanca, et ma famille, j'étais la cinquième génération, puisque le nom de Dahan provient de la Syrie, Liban. L'origine est chrétienne, maronite. Mais mon ancêtre est parti après avoir été interprète dans les troupes de Napoléon Ier. Il a quitté donc Beyrouth pour se rendre à Marseille en 1818. Il a eu la nationalité, au moment de la Restauration, il a la nationalité française, et ensuite il est parti au Maroc s'installer à Essaouira, Mogador, où il y avait là une communauté anglicane. Il n'y avait pas d'église réformée de France, il y avait une communauté anglicane. Là, il s'est vraiment inséré. Et mon grand-père, qui était négociant, faisait le Maroc, l'Angleterre. Et il s'est marié avec une dame anglaise, une jeune fille anglaise de Portsmouth. Ils sont mariés là-bas. Et il l'a ramenée. Elle ne parlait pas du tout français. Et elle s'est établie avec lui là où il est né. Et ils ont eu 5 enfants, dont mon père. Voilà. Et là, donc, évidemment, quand on a 5 générations, on n'est pas du tout encombré par la langue arabe. On côtoie les musulmans. On se parle, on communique. Moi, j'ai jamais eu de difficultés pour cela. Au contraire. Et donc, nous sommes rentrés en France. J'avais 14 ans. La première fois que j'ai connu la France, c'était à l'âge de 12 ans. Et mon père était parti 2 fois à la guerre. Et ils s'étaient mariés à Casablanca, donc à l'église réformée, avec ma mère qui était catholique d'origine. Et puis après, moi, eh bien, à 5-6 ans, j'allais à l'école du dimanche au temple de Casablanca. Et puis mon catéchisme, j'étais clouteau, éclaireur. Voilà, donc c'est vraiment dans un contexte tout à fait protestant que j'ai vécu et que j'ai vraiment trouvé là un environnement dans l'église chaleureux que j'ai beaucoup apprécié au Maroc. Ça a été pour moi très important. J'ai eu un pasteur, pasteur Claude, qui m'a vraiment transmis je dirais l'évangile avec une pédagogie très intéressante. J'en suis gré. Et j'ai eu là, à 14-15 ans, la conviction que, ben oui, je pensais vraiment déjà à être pasteur, alors que j'étais pas une famille pasteur. Et vraiment, j'avais cette conviction que c'était bien là où Dieu me demandait d'aller.
C'était donc une imprégnation très, très jeune. Vous avez toujours baigné là-dedans et avec l'islam autour.
Oui, oui.
Donc un milieu très croyant, très oui. Prenant.
Oui, oui, l'islam, pour moi, c'était évident que... Alors, il faut dire aussi quand même une chose, c'est que malheureusement, et moi j'en avais souffert, hein, comme enfant, en disant, mais au fond, une sorte de ségrégation, parce que jamais en classe nous avions des enfants marocains, ni au collège.
Oui, oui, voilà. Oui, oui, c'était les lycées français, l'enseignement oui, français oui, avec des Français voilà. Métropolitains.
Oui, oui. Tout à fait, pas mieux, parce qu'il y avait le quartier européen où oui. Nous habitions, le quartier du Mela, c'était le quartier juif, et le quartier, et puis la Médina, enfin le quartier de. Comment dire, marocain.
Pas de lien avec des Marocains de votre âge ou plus vieux.
Alors, à Mogador, qui était une ville beaucoup plus petite.
Essaouira maintenant.
Mon père avait beaucoup de. Essaouira maintenant. Mon père avait beaucoup de liens avec les copains. Mon père parlait parfaitement l'arabe. Et là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il jouait avec les copains arabes et tout, sans problème. Oui. Bon, il est arrivé à Casablanca il y avait presque 30 ans, hein, alors qu'il a vécu. Bon, il y a eu la guerre, mais il a vécu à Mogador et Essaouira depuis son enfance.
Et cette imprégnation marocaine a joué un grand rôle chez vous. On va en reparler. Et donc vous rentrez en France, enfin vous allez en France au moment de l'indépendance.
Oui, alors
du Maroc,
on est rentré en 58 parce que l'indépendance a été en 56.
Oui.
Mais alors dans des conditions difficiles, mais qui étaient quand même parce que mon père avait décidé qu'il fallait partir et il n'avait pas préparé, il n'avait pas anticipé le départ.
Ouais.
Ce qui fait que nous, on l'a vécu comme un exil, vraiment comme un exil. On a eu très peu de temps pour s'y préparer et on s'est retrouvés. Mon père il a décidé comme ça et il avait ni travail ni logement quand on est arrivé en France et on avait une seule famille de notre famille qui était là depuis un an seulement.
Ouais.
Toute la famille était au Maroc.
Ouais, ouais.
Et quand, c'était je crois avec l'Azemmour, on est parti sur le quai, il y avait toute la famille et nous on est
parti. C'est quoi l'Azemmour?
L'Azemmour, c'était le nom du bateau.
Ah, d'accord.
Et là, le bateau est parti petit à petit, a quitté le port. Et là, il y avait les grands au revoir. Et je vous vois dire, quand je dis, vous voyez, j'ai encore de l'émotion, que c'était vraiment très dur de quitter cette terre natale.
Ouais.
Et que j'aimais énormément. Et mon père aussi, il avait 44 ans et c'était encore jeune. Et on arrivait à Marseille. Eh bien, il n'y avait personne qui nous attendait. Personne.
Et vous vous êtes installé à Marseille?
Non, pas du tout. On s'est installé à Lyon parce qu'il y avait justement la sœur de mon père qui venait d'arriver.
Oui.
Mon oncle était fonctionnaire. Et mon père, qui n'avait pas été fonctionnaire, qui était dans le privé. Et alors, je dois dire que je dois vraiment une immense reconnaissance à l'église et à la diaconie parce qu'il a frappé à la porte de l'église et là, il a été accueilli. Vraiment. À Lyon.
À Lyon, donc il a frappé, il connaissait personne.
Non, personne, mais il a été accueilli par le pasteur. Et là, eh bien, vraiment, on lui a dit...
Vous avez retrouvé une famille.
Voilà, alors on a retrouvé vraiment une famille. Ouais. Et là, ils lui ont dit, mais écoutez, on va chercher pour vous. Et on a une piste. C'était le collège Chevenol. Et mon père a...
Ah, vous avez été au collège Chevenol.
Oui, oui. Alors, mon père a été comme comptable gestionnaire au collège Chevenol. Et moi, j'ai fait 4 années comme élève au collège Chevenol.
Alors, le collège Chevenol, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est ce fameux collège au Chambon-sur-Lignon.
Oui, exactement.
Où le pasteur Trocmé protégeait les enfants juifs.
Oui, oui.
Il y a eu un très beau film là-dessus.
Oui, il y a eu pratiquement 5000 juifs qui ont été accueillis dans les fermes environnantes, Chambon et autour. Hein.
Oui, oui.
Et alors là, vraiment, j'ai retrouvé mes racines. Et aussi cette foi qui grandissait en moi. Et je ne pouvais que m'épanouir au collège Chevenol.
Oui.
Voilà. Voilà,
Et c'est pour ça que finalement, l'imprégnation religieuse, elle est restée. La famille,
oui.
L'Afrique.
Oui. Oui, voilà.
C'est permanent, c'est permanant en vous. Alors, vous devenez pasteur. Faites des études de théologie tout de suite ou...
Alors, je vous avais parlé de l'exil. Là, je voulais juste faire une parenthèse parce qu'il y avait eu un moment où j'étais éclaireur unioniste à Casa. Et là, il y a eu un drame puisque dans la tempête lors d'un camp à Azemmour, j'ai perdu mon meilleur copain. J'étais au catéchisme avec lui, école du dimanche. Etc. Et il est mort pendant la tempête. Et moi aussi, j'ai failli mourir avec les autres. Le miracle, c'était que malheureusement, on a perdu on n'a jamais retrouvé. Mais ce garçon, c'était mon meilleur copain. Et si vous voulez, ça a été un deuil pour nous, pour moi. J'avais fait ma confirmation en 58 avec lui. Je dis ça parce que malgré ce deuil, malgré l'exil, au contraire, ça a renforcé ma foi.
Il n'y a pas eu de doute ou de « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Non, on a toujours... Non, au contraire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est aussi la foi.
Oui, bien sûr.
C'est aussi la foi de dire, au contraire, de s'adresser à Dieu, de dire « mais pourquoi ?» Et mon Dieu, tu m'as abandonné. Mais après, il y a le psaume 22, il y a la réponse. Je suis là, je t'accompagne, je ne te laisserai jamais. Je suis avec toi tous les jours. Je te donne du courage. Pour moi, c'est ça. La foi et ce Dieu qui est là, présent en moi d'une manière très forte.
Et alors, tout ça, finalement, vous l'avez rendu, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous l'avez transformé, retransmis aux autres, aux jeunes, quand vous avez été pasteur, à ces jeunes Africains.
Oui, j'ai été secrétaire d'aumônerie à Couët-Quidan auprès d'un pasteur aussi qui m'a bien formé. Et puis après,
Couët-Quidan,
c'est ça, c'est à Couët-Quidan. Pour moi, ça a été un peu un hasard parce que je ne connaissais pas. Mais comme je faisais ma théologie, après les classes, ils m'ont proposé ce poste. Bon, j'avais dit d'accord. Et j'ai fait 16 mois en Bretagne. Et après, j'ai fait ma théologie. Et après ma théologie, j'avais demandé à être dans la mission populaire évangélique parce que je connaissais bien les paroisses, pour connaître cette fraternité. Et j'étais à Nantes, donc là j'étais avec Arlette, mon épouse, on a été mariés à Montpellier. Elle était fille de missionnaire et au moment où elle est rentrée, ben on s'est connus quand j'étais étudiant en théologie à Montpellier. Et là, j'ai commencé mes études théologiques et après, justement, j'ai pu demander, après au moment du Proposana, d'être dans une fraternité de la mission populaire.
Justement, on va en parler de la mission populaire.
Oui.
Qu'est-ce qu'on y faisait dans cette mission populaire évangélique? D'abord, ça, c'était l'Église réformée.
Donc j'avais 26 ans quand j'ai commencé à être proposant. Oui, c'est lié à la Fédération protestante de France.
D'accord, la Fédération protestante de France.
Et c'est lié aussi à l'Église réformée de France, qui est devenue l'Église protestante unie. Moi, j'ai découvert cette fraternité un jour à Rouen, et j'ai été ébloui parce que j'avais le sentiment que l'Évangile, enfin, et la Bible, et la praxis, la pratique de tous les jours, l'engagement, c'était lié. Il y avait une cohérence. Et ça, je l'avais recherché très fort. Cette cohérence entre la prédication qui est préparée, l'exégèse qui est faite, et l'actualisation. Mais cette actualisation, elle est pour tous les jours. Et là, on la vivait aussi dans cette fraternité. C'est comme ça que j'ai découvert la Croix-Bleue. La Croix-Bleue qui était luttée contre l'alcoolisme. Et cet accompagnement qu'on a pu avoir avec des gens qui étaient complètement cassés et qui étaient croyants ou pas croyants. Mais on les accompagnait. Et avec l'aide de Dieu, et même s'il disait, mais moi je crois pas en Dieu, mais nous prions pour toi.
Oui.
Et donc, cette conviction que c'est ça le christianisme social, c'est-à-dire, l'évangile annoncé de la chair, prêché, mais aussi dans la semaine,
il débouche sur
quelque
chose.
Des chômeurs, il débouche sur le social. Mais le social, pas pour le social. Le social, c'est parce qu'il y a un accompagnement spirituel, et même pour ceux qui ne croient pas.
Et c'est intéressant parce que ça répond aux critiques qu'on fait souvent au protestantisme, à savoir, vous n'avez pas les œuvres, vous n'avez pas la nécessité des œuvres. Alors, c'est facile d'avoir la foi et puis de se reposer en disant que Dieu va vous sauver. Mais vous montrez que ce n'est pas ça, que la foi débouche sur quelque chose.
Oui, parce que la grâce est donnée, mais il y a aussi je veux dire, il y a une conséquence de la grâce aussi dans la vie de tous les jours. Elle n'est pas, comme disait Bonhoeffer, elle n'est pas à bon marché, la grâce.
Oui.
Et donc, pour moi, bon, des gens comme...
Alors, Bonhoeffer, c'était un théologien
allemand
allemand du...
Qui, qui,
du XXe.
Qui a quand même été opposé à Hitler et qui en a payé le prix, hein, puisqu'il est mort en camp de concentration.
Oui, oui. Alors, continuez, là, je vous ai arrêté.
Non, ce que je voulais dire, c'était très important pour moi, donc, ce lien entre foi et praxis. Je ne dirais pas œuvre, je dis foi et praxis, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement spirituel auprès des plus petits, auprès des plus pauvres, auprès des plus... et quand je dis pauvre, ça ne veut pas dire que... Je dis pas ça à la richesse.
Oui, ce n'est pas du paternalisme.
Et cet accompagnement auprès des gens qui étaient au chômage. Voilà, vous voyez, j'avais un ami très cher qui est toujours là. Bon, et on avait beaucoup réfléchi sur l'objection de conscience, par exemple.
Hein. Oui.
Eh bien, c'était une réalité de ce moment-là, de dire, bon, je fais l'objection ou je fais le service militaire. Je veux dire, c'est ça pour moi le christianisme qui s'inscrit dans une réalité engagée dans le quotidien.
Alors, il y a eu les jeunes, donc l'accueil des jeunes africains.
Ça, c'est parce qu'après Nantes, on avait souhaité de travailler en équipe avec deux autres pasteurs, des copains de faculté. Et là, on Louis Simon, qui était président de la région à Paris, nous avait proposé d'aller à Aulnay-sous-Bois, en église réformée, dans toute cette partie de la Seine-Saint-Denis. Et là, on a dit, mais au fond, pourquoi on ne vivrait pas aussi cette dimension du christianisme social et de ce qu'on a vécu dans les fraternités de la mission populaire dans une paroisse?
Oui.
Effectivement, la paroisse, toutes les paroisses où je suis passé ont accueilli vraiment positivement cette dimension-là.
Et là, vous accueillez des jeunes africains.
Donc, on s'est aperçu, parce que c'était les années 73, où l'aéroport se construisait à Roissy, hein, parce qu'on était pas loin, Aulnay-sous-Bois de Roissy. Et on s'est aperçu qu'il y avait, parce que de temps en temps, on nous demandait... des jeunes africains étudiants nous demandaient pour un baptême ou pour un mariage. Mais on s'est dit, mais ces jeunes, on ne va pas les revoir. Alors, il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux et leur proposer un projet. Alors, on leur a proposé un projet et on leur a dit, mais écoutez, venez, on vous accueille. Mais on vous accueille pas seulement comme ça, bonjour, et puis vous repartez, mais dans la mesure où vous allez prendre aussi, si vous le souhaitez, des responsabilités à toutes les échelles de notre paroisse, c'est-à-dire conseil presbytéral, etc., de l'école biblique, au niveau de l'animation.
Ça n'a pas été difficile à faire accepter ça aux paroissiens?
Alors d'abord, ça a été difficile pour les Camerounais.
Oui.
Parce que moi, il y a ce jeune dont je vous ai parlé qui faisait HEC et sa femme préparait un doctorat de médecine. M'a dit, mais je ne comprends pas, pasteur, tu viens nous voir et puis tu fais un projet avec nous. Mais moi, quand j'étais à la Canale et tout, il y avait peu de blancs qui venaient me dire bonjour, tu sais. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il y a derrière? Et alors, je pensais ne pas le revoir. Et puis, il m'a téléphoné en me disant, pasteur, ça m'intéresse ce projet. Et puis, on l'a construit. Et alors pour la paroisse, bon, qui était uniquement des Européens, mais alors il y avait pas mal de jeunes couples, hein.
Oui.
Ça fait que je dis pas qu'il y avait pas aussi des plus anciens, les anciens aussi qui étaient engagés dans ce projet. Et au début, bon, ils étaient un peu réticents,
un peu méfiants.
Méfiants, bien sûr.
Oui.
Mais vous savez, ça a été l'organisation des repas. D'abord les repas dans le temple, mais aussi les repas chez les gens. Et on a gagné le pari, je dirais, le défi, quand des Africains nous ont accueillis chez eux.
Oui.
Ça a été long, mais ça s'est fait.
Mais c'est souvent par les petits gestes que l'on bâtit en fait des théologies.
Oui.
C'est un peu ce que disait Zwingli quand il a commencé à faire la réforme en faisant de la pédagogie, en disant on ne va pas tout bousculer d'un coup, on ne va pas casser les statues, on ne va pas... Et là, c'est un peu la même chose, ces repas.
Et alors, ce qui nous a... je veux dire, c'est une chance quand même qu'on a eu énormément, c'est que la personne, justement, ce jeune hein, qui avait 25 ans et son épouse nous ont disait mais là, on trouve une paroisse tellement accueillante. Et alors, on a eu l'idée d'installer ce couple comme diacre. On les a installés comme diacres dans le culte, liturgiquement installés. Et ils faisaient le lien entre eux et nous. Et lui, faisait toutes les visites et tout, et il expliquait aux Africains ce qui se passait, mais il expliquait aussi aux Français, à nos paroissiens, ce qu'on vivait. ce qui était novateur. Parce que, vous savez, ce qui a été le plus difficile, c'est qu'on ne mettait pas le même sens derrière les mots.
Oui.
Il a fallu s'expliquer. Hein? Moi, j'ai passé des nuits entières avec Jérôme, il s'appelait. Hein? Et pour qu'on s'explique et pour qu'on dise, tu vois, tu dis ça, mais qu'est-ce que tu mets
derrière?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Quelle est la signification pour toi?
On décryptait.
Alors, vous avez toujours eu des liens avec l'Afrique. Vous avez toujours des liens avec l'Afrique.
Alors après Olney, lui, il est parti ensuite à Douala. Il est devenu expert comptable, commissaire aux comptes. Sa femme a ouvert une officine et on a été les voir à Douala. Et puis on a eu l'idée de dire, mais pourquoi on ne ferait pas un camp de jeunes au Cameroun, à Douala.
Ouais.
Il était Bassa et dans sa tribu, là, on a fait un camp de travail pendant un mois. Et les jeunes étaient ravis, hein, les jeunes de ma paroisse. Alors à ce moment-là, j'étais à Marseille. Et alors, ça a été extraordinaire. Et 2 ans après, c'est Camerounais qui sont venus. Et évidemment, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous. Et on a payé une grande partie
Bien
de
sûr.
Leur voyage. Mais voilà, donc, c'est avec l'Église évangélique du Cameroun, on a été dans faire un camp de travail aussi à l'ouest du Cameroun et on a reconstruit, on peut dire, une maternité qui est devenue aujourd'hui un hôpital.
Oui, parce que ça se continue toujours. Vous avez une association qui s'appelle...
Espérance Nord-Sud.
Voilà.
Et oui, parce que après, c'est à Nice, j'ai continué, Marseille, puis Nice. Et là, j'ai eu aussi des paroissiens très convaincus en disant ce projet est beau, il faut le continuer, et on va créer une association, Espérance sur Sud. Et là, on a eu l'idée de soutenir un jeune qui voulait rester en France. On lui dit, mais non, tu es mieux dans ton pays et on va t'aider. Et comme ça, on l'a aidé on était une équipe, et on l'a aidé à construire un dispensaire qui fonctionne très bien aujourd'hui. Hein. On l'a aidé financièrement. On a de nouveau fait un camp de jeunes, plusieurs camps de jeunes. Et puis voilà que ce jeune, il s'est avec une équipe. Bon, vraiment, ils se sont beaucoup épanouis. Et maintenant, il fait fonctionner son dispensaire de manière remarquable dans un des quartiers les plus pauvres de Douala.
D'accord. Alors, on pourrait en parler très longtemps de l'Afrique. On va faire une pause musicale et après, on va parler des prisons. Alors, pour la pause musicale, vous nous avez choisi. Vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi et pourquoi ?
Alors, j'ai choisi la cantate 147 de Jean-Sébastien Bach, « Que ma joie demeure ». Et qui était souvent, sûrement joué par Schweitzer quand il était au Gabon. Et dans ce disque, il y a une partie d'orgue, mais qui se mêle avec des bribes de Ogwe, qui est une danse africaine. Donc ça se mêle, si vous voulez. Et c'est pour ça que ça s'appelle le disque Lambarena, Back to Africa, en hommage à Schweitzer. Donc c'est vraiment l'universalité de l'évangile pour toute l'humanité.
Eh bien, merci beaucoup. On écoute ce morceau. Alors, on se retrouve maintenant avec Richard pour parler de son engagement auprès des prisonniers. On a vu que c'était la foi qui vous avait nourri depuis toujours, qui vous a poussé à vous occuper des autres, à vous occuper des petits, entre guillemets, des pauvres, entre guillemets, la Croix Bleue, l'alcoolisme, les jeunes, les Africains, et puis aussi les prisonniers. Alors, comment c'est venu cette... cette envie de travailler dans les prisons?
Là aussi, hein, c'est l'événement qui a produit cet engagement. Parce que déjà, alors il faut remonter à la paroisse d'Aulnay, où là on avait accueilli dans un de nos... Parce qu'on avait trois lieux d'église, et on avait accueilli avec la Rapège des sortants de prison. Et donc, pour moi... Et puis, à travers la Croix-Bleue, j'accompagnais aussi des gens, des personnes, des hommes qui sortaient de prison.
Oui.
Donc, il fallait bien les aider à couper avec l'alcool. Et voilà, et là, il y avait cet engagement qu'on prenait, et qu'ils prenaient avec moi. Je promets avec l'aide de Dieu de m'abstenir de toute boisson alcoolisée. Ça pouvait être deux jours, ça pouvait être trois jours. Et au bout d'un an, bon, on était membre de la Croix-Bleue. Et c'était l'idée que là aussi... Même chose dans la dimension du christianisme social, dire, mais dans les prisons, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se passe? Et on a aussi un rôle à jouer pour les plus petits, pour les plus pauvres. Et pour les gens cassés, même ceux qui sont riches, les gens cassés. Et il se trouve qu'à Nice, il y a toujours une prison. Et dans le cahier des charges, on était trois pasteurs, et dans mon cahier des charges, il y avait possibilité d'aumônerie des prisons. Mmh. Alors, bon, moi, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et avec un pasteur baptiste à la prison de Nice, on a accompagné pendant 8 ans, le temps que je suis resté à Nice, les détenus.
Et est-ce que c'est la même façon d'annoncer l'évangile en prison ou à d'autres milieux
Dans la prison, c'est être aumônier en prison, c'est ne pas faire de prosélytisme. C'est accompagner les personnes quelles qu'elles soient, quel que soit ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. C'est vraiment d'abord... parce que vous savez qu'on peut entrer dans les cellules. On a la possibilité d'entrer dans les cellules. Donc, on entre chez eux.
Oui, oui.
On entre chez le détenu. Et alors, quand je prends contact avec... ou qui me prend contact avec moi, eh bien, on va commencer à parler de... Ah, va-t-on rompu ? Puis petit à petit, s'il y a justement une étincelle et que ça l'intéresse sur le plan de la foi, alors là, on peut remettre une Bible et commencer tout en cheminant avec lui ou avec elle. Voilà, voilà. Donc, c'est d'abord, face à moi, j'ai un être humain et que Dieu aime et qui a fait quelque chose de grave, mais cet être humain, il a dans lui-même... il est habité par aussi des émotions et une recherche de sens, même s'il a fait des choses graves.
Et le fait qu'il sent qu'il n'y a pas de jugement de votre part, est-ce que ça doit jouer beaucoup ?
Oui, dans la confidence, bien sûr.
Et est-ce qu'il y en a beaucoup qui continuaient avec vous ou est-ce que vous trouviez qu'il n'y en avait pas assez une fois passé le premier entretien ?
Ça dépendait. Il n'y a pas de recette. Là. Ou alors, bon, on s'est voyé une fois, ou alors ils demandaient à me revoir. Et puis, on avait aussi des groupes de parole. Et on les invitait au groupe biblique. Et là, bon, je veux dire, ça les intéressait beaucoup. Moi, je disais souvent aux détenus, quand on prenait un texte ou un livre ou qu'on suivait, je disais, mais vous êtes des vrais théologiens, vous savez. Vraiment, hein. Et si vous pouviez continuer à faire de la théologie dehors comme vous le faites maintenant, c'est formidable. Et incroyable ce que j'ai reçu, moi, de ces personnes, sur le plan de la foi, sur le plan des écritures, sur le plan de l'exégèse.
Est-ce qu'ils avaient une lecture différente de celle que vous pouvez rencontrer dans un groupe d'études bibliques en paroisse?
Oui, tout à fait, hein. Je veux dire, c'était, j'espère, comme en paroisse, très libre. Hein. Et s'il y avait une exégèse qui était intéressante, ouverte, passionnante, oui, on n'arrêtait pas là. C'était quand même en même temps, j'apportais pas, si vous voulez, un enseignement. L'enseignement, il était donné petit à petit à travers la parole, mais la parole était libérée. Et c'est eux aussi qui créent le groupe de parole. C'est eux qui amenaient aussi. Alors moi, je préparais toujours mon exégèse, mais je laissais un champ libre à la discussion aussi, tout en restant sur le texte.
Et il n'y avait pas de pudeur entre eux d'être dans le religieux, ça ne les gênait pas de montrer qu'ils pouvaient être intéressés par Dieu.
Alors, ceux qui venaient, ils avaient évidemment un intérêt, mais certains étaient athées, ils le disaient.
Ouais.
Ce qui les intéressait aussi, c'était d'abord de sortir de leur cellule.
Oui, bien sûr.
ça leur permettait d'avoir un moment quand même pendant 2 heures où ils étaient accompagnés avec des gens de l'extérieur, ce qui était très important. Donc, on était quand même les gens de l'extérieur qui arrivaient. Et ça, c'était important pour eux. Alors oui, il y avait comme la vie de tous les jours.
Oui.
Des gens qui croyaient, des gens qui doutaient, des gens qui cherchaient. Et vous voyez, ça, c'était pas gênant du tout.
Et le fait, justement, qu'ils disent qu'ils étaient athées, montrait qu'ils pouvaient se libérer, qu'il n'y avait pas, on va failloter, on va se faire bien voir par l'aumônier.
Oui, tout à fait.
C'était une grande sincérité.
Oui, bien sûr.
Et après, quand ils sortaient, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont, ou est-ce qu'ils disparaissaient dans la nature?
Alors, c'est là où c'est la différence entre le prosélytisme et simplement le témoignage. Nous, on ne cherchait pas à les revoir. Par exemple, si quelqu'un disait « je voudrais être baptisé » dans l'intérieur de la prison, souvent en disant, vous savez, si c'était des courtes peines, mais vous savez, vaut mieux attendre, et quand vous serez sorti, venez me voir. Et à ce moment-là, on en rediscute, et je ne refuse pas du tout le baptême, mais de vous baptiser. Mais c'est peut-être mieux, parce que là, vous êtes dans l'enthousiasme de la rencontre. Mais il faut que, après, quand vous sortez, il y ait cette enthousiasme qui continue. Et parfois, ils ne pouvaient pas. C'était trop dur pour eux.
Ouais.
Et puis, il fallait aussi qu'il y ait des communautés, des paroisses aussi qui soient accueillantes. Et nous, alors, ce qui était intéressant aussi, c'était dans la paroisse, de pouvoir les sensibiliser, les paroissiens, leur parler de la prison. Et alors, au fait, carillonner, la veille des fêtes carillonnées, je les amenais, par exemple, la chorale. Ils venaient avec moi et dans l'enceinte de la prison, ils étaient là, ils chantaient et tout. Il y avait un goûter. Et quand ils revenaient, ils me disaient, tu sais, en fin de compte, on a rencontré des êtres humains. Et nous, parce que la prison, ça fascine et ça fait peur.
Oui.
Et ils me disaient, mais nous, on a rencontré des êtres humains et on a été heureux de les voir, de les rencontrer, de parler avec eux. Parce qu'on avait un temps pour parler avec eux quand on faisait ces oui. moments-là. Et le directeur de la prison, en général, acceptait qu'on ait ces moments-là, heureusement. Ça fait partie de la laïcité aussi.
Oui, oui. Alors, il y avait en fait un double témoignage des prisonniers et puis des gens de l'extérieur. Et c'est ça qui est formidable, ces rencontres. Et chacun laisse un peu ses préjugés de côté.
Y compris les détenus.
Oui, oui.
Parce qu'ils peuvent aussi dire, ils viennent me voir et tout, et puis ils pouvaient avoir aussi une défiance ou bien une peur. Hein,
oui.
La peur de l'autre.
Oui, oui. Ils pouvaient penser que c'était des bourgeois.
Oui, des bourgeois, du voyeurisme aussi. Hein.
Oui.
Donc voilà. Alors nous, on les préparait aussi à la rencontre. On les préparait. Ils étaient heureux. Alors, ce qui se passait aussi, mais j'ai beaucoup fait à Marseille, et on l'a fait aussi. C'était d'avoir, parce qu'on normalement on ne doit pas avoir trop de liens avec la famille, mais quand même on le faisait.
Oui.
Et par exemple à Noël, s'ils voulaient que parce qu'il y avait souvent le fait qu'ils soient en prison, la famille malheureusement en pâtissait. Et là, on préparait avec les enfants de l'école biblique ou les catéchumènes des colis pour eux, pour leurs enfants, et on amenait dans les familles les colis. Où on les faisait amener dans les familles auprès des enfants. Donc ça veut dire que c'était les enfants de l'école biblique ou du catéchisme ou du groupe de jeunes qui préparaient cela en lien avec le détenu, qui disait ce qu'il voulait. Et du coup, il y en a qui écrivaient aux détenus aussi. Donc il y avait un lien.
Et dans les conversations que vous aviez avec les détenus, vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez découvert, enfin que les gens découvraient que c'était des êtres humains. Est-ce que leur crime était compris dans cette chose? C'est-à-dire, est-ce qu'ils en parlaient parfois? Est-ce qu'il y avait un mouvement de regret, de conversion? Ou alors, est-ce que vous adressiez à l'être humain en dehors du crime?
C'est très difficile, hein, ouais. Parce que au crime, au vol, ou
aux
drogues, vraiment il y a des différentes, parce que il y a à peu près 7-8% de personnes qui sont incarcérées qui sont des criminels.
Oui.
Le reste c'est des autres choses.
Oui.
Mais il faut vraiment chacun doit s'apprivoiser l'un et l'autre pour qu'ils arrivent à avoir tellement de confiance qu'ils puissent nous dire en vérité ce qu'ils ont fait. Parce qu'en même temps, il y a la peur de se voir dans le miroir et de dire
oui,
je l'ai fait, de reconnaissance. C'est très difficile. Et c'est là où la justice restaurative a beaucoup aidé pour justement que la personne puisse, l'infracteur et la victime puissent justement se rencontrer quand ils sortent de prison.
Vous pouvez expliquer ce que c'est que la justice restaurative ?
Oui, c'est déjà ce qu'a vécu en Afrique du Sud au moment de Mandela.
Oui, la fin de l'apartheid.
La fin de l'apartheid. Ah. Et la possibilité que les victimes puissent rencontrer ceux qui ont commis des abus. Et puis que la parole se libère et que les victimes puissent voir les fracteurs. Et ça libère beaucoup. Et donc, malheureusement, en France, ça rentre petit à petit dans les mœurs, mais c'est dans la loi. Madame Taubira avait beaucoup aidé et avait beaucoup rencontré notre aumônier général, l'aumônier national des prisons. Elle a beaucoup travaillé pour qu'on arrive aussi à cette justice restaurative. C'est vraiment pouvoir faire que la victime et l'infracteur se rencontrent.
Et ça continue, ça, en France, ou ça a été abandonné ?
Ça continue, pas facile, pas difficilement, mais c'est pas évident, quoi. Mais c'est important.
Et alors, je voudrais qu'on termine sur le point commun, le lien, les différences entre toutes ces activités. Bon, on sent que c'est poussé par la foi, on sent que c'est la grâce de Dieu, on sent que c'est découvrir l'être humain dans l'autre. Qu'est-ce que vous avez découvert, en fait, dans cette practice, je ne sais pas comment vous avez défini. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas auparavant, quand vous avez commencé vos études de théologie ? Est-ce que ça vous a apporté un regard différent sur vos frères ?
Oui, mais d'abord, ça m'a ouvert des horizons insoupçonnés. Et ça m'a permis aussi en tant que pasteur d'avoir aussi un ministère qui permette alors bien sûr la desserte est importante mais qui permette aussi d'ouvrir l'horizon et que nous soyons pas un club mais vraiment j'allais presque dire une auberge qui accueille les gens qui ne connaissent pas la foi ou bien des gens déçus. Et ça permet aussi de que l'accueil soit fait pour eux. Ça, c'est la première chose qui était très importante pour moi. Alors que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, l'église de Casablanca, je veux dire, ou d'autres églises, au Chambon. Mais j'ai été à l'école de Rosaire, par exemple, qui a été dans la mission populaire évangélique. Ça a été des gens comme Schweitzer, des gens comme Elie Gounel. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup nourri. Et c'est grâce à eux que j'ai pu vivre ces ministères-là.
Eh bien, je vous remercie, Richard Dahan, et je remercie à nos auditeurs, à qui je dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas vos réactions à « Un protestant peut en cacher un autre » @radiofmplus.org. Merci, au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.